passe maintenant aux 10 minutes de neurosciences. On parle toujours histoire des neurosciences. Alors Jean-François, vous pouvez juste nous faire un petit point sur ce dont on a évoqué l'émission précédente.
Oui, à l'émission précédente, donc on est parti de la base un petit peu, de l'histoire ancienne des neurosciences. On a vu différentes évolutions, on a parlé de l'Antiquité, etc. Et puis, où en est-on, je dirais, aujourd'hui ? On va repartir quand même de deux éléments intéressants, c'était la découverte des aires, par exemple, du langage. Donc, les aires du langage, la fameuse aire de Paul Broca ou l'aire de Wernicke. Hein, l'aire de Broca, c'était ce médecin, M. Paul Broca, qui suivait un patient du nom de M. Le Borgne et qui comprenait ce qu'on lui disait, mais avait beaucoup de mal à prononcer les mots. Et donc, lorsque ce patient est décédé, son cerveau fut autopsié et on découvrit une lésion importante au niveau du lobe temporal gauche, qui s'appellera d'ailleurs après l'aire de Broca. Et ce lobe temporal gauche est extrêmement important dans la prononciation des mots, alors que la personne comprend en fait parfaitement ce qui lui est dit. Donc cette première aire avait été découverte, et par la suite, Carl Wernicke a découvert une autre aire du langage. En fait, il suivait un patient qui n'avait aucun problème à prononcer les mots, mais n'avait aucune compréhension des mots. Donc ce patient prononçait des phrases qui n'avaient vraiment aucun sens. Et quand il est décédé, ce patient, on a pu autopsier son cerveau et on a découvert une lésion au niveau du lobe temporoparietal. Donc c'est une autre aire du cerveau qui s'est appelée bien sûr après l'aire de Wernicke. Et cette aire de Wernicke va engendrer donc des aphasies, hein, donnant un langage tout à fait volubile, mais totalement incompréhensible. Et c'est vraiment là qu'on découvre la régionalisation du cerveau, c'est-à-dire cette idée qu'en fait il faut plusieurs aires du cerveau pour pouvoir répondre à une même fonction, qui est par exemple la fonction du langage. Durant le XXe siècle, on va commencer à développer différentes disciplines dans les neurosciences. On va parler de neurobiologie moléculaire, de neurobiologie cellulaire, de neurosciences intégratives, les neurosciences du comportement, très intéressantes aujourd'hui, et les neurosciences cognitives qui vont intéresser notamment l'éducation. Alors, pour faire, je dirais, un petit point rapide, aujourd'hui, dans les laboratoires, qu'utilise-t-on dans les neurosciences ? Eh bien, on va utiliser un premier appareil qui est un appareil de mesure encéphalographique, donc l'EEG, donc l'électroencéphalogramme, qui permet donc de faire une analyse de la mesure électrique en surface du cortex. C'est une méthode non-invasive, hein, puisqu'il s'agit simplement de poser un casque sur la tête avec des électrodes, et donc de pouvoir découvrir quelles sont les zones du cerveau qui sont activées. Un autre appareil qui existe aujourd'hui, que l'on connaît d'ailleurs en général à l'hôpital, c'est ce qu'on appelle le PET scan. En fait, le PET scan, c'est le terme anglais. Le terme français, c'est TEP, c'est-à-dire la tomographie par émission de positrons. Donc là, il s'agit d'un examen isotopique. Hein. C'est un examen avec une méthode plutôt invasive, puisqu'on va injecter un traceur radioactif. Et ça permet, entre autres, de localiser l'activité dans certaines parties du cerveau. Mais on s'en sert aussi aujourd'hui dans la recherche de cancer, par exemple, en injectant un traceur qui est un leurre de glucose et qui va se loger dans les cellules cancéreuses qui ont besoin, elles, de glucose pour se développer. On utilise aussi de temps en temps un autre traceur pour la recherche des maladies d'Alzheimer. Donc le TEP est un outil qui permet de faire cela. Troisième appareil qu'on peut utiliser, qui s'appelle l'IRM, et notamment l'IRMF, c'est-à-dire l'imagerie par résonance magnétique fonctionnelle, et là qui est un outil qui permet de faire d'autres études et de voir d'autres choses au niveau du cerveau. Ce qui est important de comprendre, c'est que la recherche en neurosciences est coûteuse aujourd'hui. C'est coûteux, c'est vrai, mais le coût de l'ignorance est très élevé. Il y a plusieurs maladies qu'on pourrait guérir si la recherche en neurosciences avançait, notamment les maladies neurodégénératives comme le Parkinson. On pourrait continuer à faire un travail sur les AVC, sur l'épilepsie, sur la sclérose en plaques, sur les maladies d'Alzheimer. Donc effectivement, on sait que vraiment c'est un domaine de recherche où il faudrait pouvoir avoir beaucoup de moyens pour pouvoir comprendre beaucoup de choses, le cerveau étant quand même un outil extraordinaire et puis qui est un outil qui commande énormément de choses dans notre corps. Donc décrypter, si on veut, le code neural, hein, c'est fondamental pour progresser dans la guérison des maladies nerveuses, hein, c'est sûr. Il faut savoir que les maladies nerveuses, aujourd'hui, représentent 30% du coût de la santé.
Tout de même.
C'est très très important. Alors en même temps, les chercheurs en neurosciences doivent toujours faire très attention parce que, à force de vouloir faire un cerveau modèle, de comprendre ce qui se passe au niveau du cerveau, il ne faudrait pas qu'on commence à vouloir modéliser le cerveau et puis à vouloir se transformer en Frankenstein et de commencer à développer des cerveaux super développés en ayant les bons neurotransmetteurs, en pouvant faire fonctionner les bonnes choses. Il faut rester à la place de la recherche et prendre les informations et traiter et pas vouloir transformer les hommes en super-hommes.